de 1879 à 1885, les combats de Jules Ferry. Le ministre, puis président du Conseil, Jules Ferry, va se battre sur trois fronts: la religion, l'instruction, la colonisation. Parmi les ministres de Waddington, on trouve Jules Ferry, ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts. Le 15 mars 1879, il dépose un projet de loi dont l'article 7 contient la proposition suivante. Nul n'est admis à diriger un établissement d'enseignement public ou privé s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. Cela signifie que, si la loi est votée, ce sont plus de 500 congrégations qui vont devoir fermer leurs portes et que 20 000 enseignants vont devoir abandonner leur poste. Qui est visé plus précisément par Jules Ferry? Les jésuites. Jules Ferry a déclaré qu'il voulait leur arracher l'âme de la jeunesse française. Au mois de juin, à l'Assemblée, le projet Ferry déclenche des batailles rangées. Gambetta en perd son œil de verre, des gifles partent en pleine séance, des chaussures s'envolent, des boutons et des faux-cols sautent, les sonnettes agitées frénétiquement pour ramener le calme perdent leur battant qui frappe au hasard des crânes rouges de colère. Le 10 juillet 1879, l'article 7 passe. La laïcité de l'enseignement est adoptée en France. Adopté par le Sénat le 23 février 1880, il trouve sa première application concrète dans l'expulsion des jésuites de la rue de Sèvres à Paris. Expulsion qui va aussi avoir lieu dans plus de 30 départements le même mois. L'esprit gallican souffle dans la République. Le 19 septembre 1880, Jules Ferry devient président du Conseil. Le 16 juin 1881, l'enseignement primaire public est déclaré gratuit. Le 28 mars 1882, la loi devient plus précise. L'instruction primaire devient obligatoire et laïque dans les écoles publiques, de 6 à 13 ans. Les instituteurs devront y dispenser une instruction morale et civique. Un jour de congé est prévu en dehors du dimanche, le jeudi, afin d'assurer l'enseignement religieux. L'enseignement religieux sera dispensé en dehors des édifices scolaires publics. Jules Ferry organise par ailleurs l'enseignement secondaire des jeunes filles, jusque-là placées sous la responsabilité des religieuses. La religion quitte donc l'école, mais Jules Ferry, s'il a atteint son but, n'en professe pas moins une laïcité tolérante. Il est aussi à l'origine de la loi sur la liberté de la presse. Le 29 juillet 1881, la censure est supprimée. C'est également l'homme de la législation des syndicats par la loi du 21 mars 1884. Jules Ferry, c'est enfin celui qui a donné, à partir de 1880, une impulsion décisive à la colonisation. La présence française va progresser en Tunisie, au Congo, dans le sud algérien, en Afrique occidentale, à Madagascar, en Indochine, à Tahiti. Cet aspect de son action subit de violentes attaques de la droite et de l'extrême gauche, non parce qu'on trouve la colonisation humainement déplorable, mais parce qu'on l'estime trop coûteuse. Jules Ferry la justifie, en avançant les arguments suivants. Elle favorise les placements de capitaux, l'exportation des marchandises. Elle permet aussi de libérer le pays des déclassés, des marginaux qui ne trouvent pas leur place en France. Elle permet d'affirmer la supériorité de la culture occidentale et de la diffuser auprès des populations colonisées, considérées comme arriérées. Ces justifications ne choquent pas vraiment à l'époque. Si on reproche à Jules Ferry les investissements coloniaux, c'est qu'on préfère préparer activement et financièrement la reconquête de l'Alsace-Lorraine.
Gallieni, Lyautey, Doumer. La colonisation, c'est le temps de l'exploitation sur place d'une main-d'œuvre à bon marché, malmenée, méprisée. C'est le temps des terres confisquées, les meilleures de celles qui se situent sur les 11 millions de kilomètres carrés de l'empire colonial français. Mais c'est aussi le temps des passionnés. La voie avait été ouverte par René Caillé, 1799-1838, qui était allé jusqu'à Tombouctou. Savorgnan de Brazza, 1852-1905, explore le Congo, qui accepte de se mettre sous tutelle française. Brazza, vénitien naturalisé français en 1874, organise le pays de façon remarquable, cherchant par tous les moyens à protéger les Africains des nuées d'exploiteurs qui s'abattent sur le pays. Ses efforts sont réduits à néant. Il est relevé de ses fonctions en 1897 afin de laisser le champ libre aux concessionnaires et à leurs pratiques scandaleuses. La colonisation, ce sont aussi les missionnaires, les pères blancs du cardinal Lavigerie. C'est Gallieni et Lyautey à Madagascar, c'est Paul Doumer en Indochine. Autant d'hommes qui croient en leur rôle de civilisateurs, créant des écoles, développant l'agriculture, l'artisanat.
Le 10 novembre 1881, Jules Ferry démissionne de la présidence du Conseil. Il laisse la place à celui qui l'attend depuis longtemps, Léon Gambetta. Mais on ne se précipite pas autour de lui. Ses projets semblent flous, davantage portés par de belles paroles que par des évaluations réfléchies. En réalité, Gambetta inquiète surtout la haute finance, qui voit d'un mauvais œil son souhait d'instaurer l'impôt sur le revenu, de réviser la Constitution et, peut-être, de dissoudre la Chambre des députés devenue de plus en plus affairiste. Le ministère est cependant formé, composé en majorité d'amis de Gambetta. On va parler d'une équipe de camarades. Mais dès le 26 janvier 1882, le ministère Gambetta tombe. Il est remplacé par celui que forme Charles Fraissinet, utile appui pour Jules Ferry qui se retrouve à l'instruction publique.
Le pistolet de Gambetta. Le 27 novembre 1882, dans une maison de Ville d'Avray, on entend un coup de feu. On accourt et on trouve Léon Gambetta sérieusement blessé au bras. Une artère est touchée. En déchargeant son pistolet pour le nettoyer, il a fait un faux mouvement. Immédiatement, des rumeurs circulent. C'est un attentat des jésuites, des anarchistes. C'est la vengeance de Léonie Léon, sa maîtresse. Le médecin prescrit alors du repos au bouillant député. Erreur fatale. Ce repos contraint exacerbe une inflammation du péritoine dont Gambetta souffre depuis longtemps. Une grave occlusion intestinale se déclare. On ne sait trop si on doit opérer. La mort vient dissiper le doute. Elle survient le 31 décembre 1882. Léon Gambetta avait 44 ans.
L'Annam, Vietnam du centre, et le Tonkin, Nord-Vietnam, deux objectifs de Jules Ferry dans son programme de colonisation. Presque deux obsessions. Pour l'Annam, tout va bien. Son empereur se place sous le protectorat de la France et la Chine renonce à sa suzeraineté sur cette partie de l'Indochine. Mais pour le Tonkin, c'est une autre entreprise. La Chine attaque un détachement français. Bataille de Lang Son, le 3 février 1885. Jules Ferry tente alors de demander des crédits pour envoyer des renforts combattre les Chinois. Ils lui sont refusés par les députés le 30 mars 1885. Le même jour, 20 000 personnes se sont rassemblées sur la place de la Concorde, émues par le sort des soldats dans le lointain Orient. Au cri de « À bas Ferry !», le ministère est renversé. C'est une fort mauvaise affaire pour les républicains, qui voient arriver avec crainte les élections d'octobre 1885. Malgré le refus des crédits, un blocus de la Chine est effectué par l'amiral Courbet. La France contrôle alors le Tonkin. Deux ans plus tard, l'Union indochinoise est créée. Elle comprend la Cochinchine, Vietnam du Sud, l'Annam, le Tonkin, le Cambodge et, en 1893, le Laos.